RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Bonjour à tous, c'est parti pour les GG, pour les grandes gueules. Content de vous retrouver, on va discuter, on va débattre ensemble bien sûr. Le 32-16 est d'ores et déjà à votre disposition pour prendre la parole. Bonjour Olivier.
Bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Permets-moi de saluer Bernard, fidèle auditeur que j'ai rencontré ce week-end. Bernard nous vient de Cavaillon et tous les matins, il nous écoute, il nous regarde. Et je le salue, un salut amical.
On salue Joël Dagosséry, la coach de vie qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour ma chère Joël.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec l'avocat Charles Consigny. Bonjour Charles.
Bonjour à tous.
Et puis Didier Giraud, agriculteur de Saône-et-Loire, nous accompagne. Bonjour Didier.
Salut à tous, bonjour à la France profonde.
Petit problème de voix, la midi, chaleur plus climatisation.
Ah, c'est ça. Il a fait toute la journée hier, chaud froid.
Toi tu m'as dit que tu étais en train de crier sur Sandrine Rousseau.
Non, c'est faux.
T'avais entendu une déclaration.
Hier, je vais tout vous expliquer. Maître, hier j'ai travaillé dehors, j'ai eu très chaud, je me suis aspergé et direct je suis monté dans la moissonneuse où la clim tournait à fond.
Clac. Un coup de froid.
J'ai perdu 2 cordes vocales dans le. Et ça fera un peu de repos au tympan de nos auditeurs.
Et surtout à ceux de Charles Consigny qui est juste
absolument,
à côté de toi.
Absolument, parce que Didier parle souvent très fort. Moins fort que notre professeur de philosophie.
Jean-Loup Bonamy.
Mais
connerie.
Oui, alors c'est peut-être le fond, effectivement, qui fait que j'ai le sentiment que c'est moins fort chez toi, alors que c'est peut-être le même niveau de décibels.
J'ai des vacances à vous offrir toute la semaine. Vous allez pouvoir gagner des vacances bel en bras, dans les GG, dans les grandes gueules. Des vacances à la mer, à la montagne, à la campagne. Vous choisissez l'un des clubs bel en bras. C'est un séjour d'une valeur de 2000 euros. C'est le spécialiste des clubs vacances bel en bras. Vous serez en tout compris premium. Il suffit d'envoyer maintenant vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. Tirage au sort tout à l'heure à 11h20 et le gagnant en direct dans les GG, dans les grandes gueules. De quoi va-t-on parler dans les grandes gueules aujourd'hui? Pas mal de choses à voir bien sûr ensemble sur lesquelles vous allez pouvoir réagir. On va évoquer Édouard Philippe, croire en nous, c'est son slogan Édouard Philippe, mais est-ce que vous croyez en Édouard Philippe pour gagner à l'élection présidentielle? Est-ce qu'on doit interdire la pratique No Kids? Il paraît que c'est discriminatoire d'avoir des hôtels ou des clubs vacances sans enfants. Le procès en appel de Marine Le Pen, la présidentielle se joue-t-elle demain? Mais tiens, si on parlait d'un président en exercice, il s'appelle Donald Trump et Donald Trump intervient pendant la Coupe du Monde.
You are fake news.
Je suis la corruption.
Fake news.
Je suis la corruption.
Corruption.
On savait que Donald Trump se mêlait absolument de tout. Mais là, il se mêle aussi de la Coupe du Monde de football et d'après nos confrères, certains de nos confrères américains, il est même intervenu pour faire annuler un carton rouge.
Bah, non seulement il est intervenu, mais surtout que la FIFA lui a donné raison. C'est là où est le scandale. Donald Trump a trouvé injuste le carton rouge infligé au meilleur buteur de son équipe, l'équipe des États-Unis, qui affronte en huitième de finale les Diables Rouges, la Belgique. Et donc, il a passé un petit coup de fil au président de la FIFA, monsieur Infantino, et la FIFA lui a donné raison. Alors, la FIFA a trouvé un article dans son règlement, l'article 27 du règlement de la commission de discipline de la FIFA, qui permet de suspendre le carton rouge infligé au joueur américain. Et donc, ce joueur, qui est important dans l'équipe, va pouvoir jouer. Alors, bien sûr, les Belges crient au scandale. La Fédération belge de football a fait appel de cette décision. On est quand même dans un fait de corruption visible par tous, une ingérence incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que une fois pour toutes, on a un problème avec cette Coupe du Monde et l'arbitrage?
Didier,
moi je crois que dans cette Coupe du Monde, on a d'abord et avant tout un problème avec la gouvernance de la Coupe du Monde. Quand tu regardes les affaires, comment a été traitée l'équipe de l'Iran, l'arbitre somalien, je crois, ou éthiopien, somalien. Somalien, oui. Qui est un des meilleurs arbitres, qui est le meilleur arbitre de la conférence africaine.
Meilleur que l'arbitre ouzbek, par exemple.
Qui s'est fait jarter comme un malpropre. Et la FIFA n'a pas réagi. Donc, à un moment donné, moi, je comprends qu'un État est souverain et qu'il y a les règles de l'État. Sauf que là, tu te demandes si Donald Trump, c'est pas le Donald qui est évadé de Marne-la-Vallée. Et si Elefantino, il a pas un peu craqué.
Infantino.
Oui, mais Elefantino, quoi, du coup, hein. S'il a pas un peu craqué, et s'il doit quand même dire amen à tout en termes d'ingérence. Parce que tu dénatures la Coupe du Monde, quoi. Mmh. Tu dénatures le résultat sportif. Il se trouve que Balogun, il a pris un carton rouge. Balogun, en plus, on le connaît bien. Il joue à Monaco, donc c'est plutôt un bon joueur. Mmh. Il était censé être suspendu pour le match suivant, et du coup, par cette intervention, il est requalifié. Donc moi, je serais belge. Je crierais au scandale.
Ils ont fait appel, hein.
Mais est-ce que tout le monde ne doit pas crier au scandale? Parce que les Belges, ils sont directement concernés, mais est-ce qu'ils ne devraient pas avoir une levée de bouclier?
Parce que du coup, à ce moment-là, moi, je demande à Emmanuel Macron de se dépêcher d'appeler Infantino, et puis de
faire annuler le carton jaune d'Olysée.
Bah, les trois, hein.
Sans scandale.
Faire annuler les trois cartons jaunes, vu comment on a été arbitré vendredi, à un moment donné, tu te dis pourquoi.
Parce que là, moi, j'ai
regardé la vidéo, j'avais pas vu le match, je viens de regarder la vidéo. Enfin, Balogun, il le mérite quasiment, hein, son carton rouge. Hein. Il fait une faute, il mérite un carton rouge.
Hein. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment la fédération qui dirige la plus grande compétition au monde. La plus grande compétition au monde,
ça
quand
peut
même.
Peut-être les JO, quand même.
Oui, oui, mais bon, je veux dire, il y a match, ouais, comme on dit. Match. Voilà. Arrive autant à se soumettre et à se plier
aux États.
À un État, parce qu'en fait, cette Coupe du Monde, elle non, est quand même.
Il y en a d'autres.
Il y a 4 ans, on a fait une Coupe du Monde au Qatar, oui, sur des tas de cadavres pour construire les stades.
Oui, je sais, mais je parle de cette Coupe du Monde. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est organisée par 3 États. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, arrive à se soumettre à autant à un seul des 3 États. Cette Coupe du Monde, il faut dire la vérité, elle est avant tout américaine, états-unienne. Quand tu regardes comment est organisée la Coupe du Monde, quand tu regardes les pauses, les soi-disant pauses fraîcheur qui sont des pauses pubs, mm-hmm. quand tu regardes l'hymne, mais qu'est-ce que foutait, excuse-moi, l'hymne américain, d'accord, c'était le jour de l'indépendance, mais sur un match où les États-Unis ne jouaient pas, par exemple, qu'est-ce que ça foutait toute cette grandiloquence américaine à l'entrée de, je ne sais plus c'était quel match, mais en tout cas c'était pas les États-Unis qui étaient impliqués, voilà. Enfin, cette Coupe du Monde est américaine, soit, mais je veux dire, il y a des limites à la soumission. Là, la FIFA, qui est une énorme organisation, peut pas accepter ça. Et c'est vrai, il n'y a pas que la Belgique qui devrait se soulever contre ça. En fait, tous
la
les
France
pays,
aussi devrait,
tout, mais bien sûr, mais tous les pays devraient se soulever contre ça.
En plus, que Infantino avait même décerné le prix de FIFA de la paix à Donald Trump. Non, en décembre dernier, lors d'une remise de prix de trophée solennel.
Souvenons-nous qu'Infantino a tout fait pour écarter Michel Platini de cette présidence, parce que si on refait un peu l'histoire, qui aurait dû être président de la FIFA, c'était Michel Platini, et on a inventé une affaire de toutes pièces. D'ailleurs, Platini a obtenu des années après gain de cause et a pu prouver son innocence, mais Infantino était dans l'histoire.
Hein. Bah, l'UEFA devrait ouvrir sa bouche. Hein. Moi, je suis désolée, il n'y a pas à faire ça. Surtout que quand tu vois comment a été arbitré le match là contre la France, je me suis vraiment posé des questions. Je me suis dit, ça, c'est pas des erreurs d'arbitrage. Là, on est sur quelque chose. Je me suis dit, mais il a été payé. C'est impossible, en fait, ce qui s'est passé là. Donc, il y a ça, plus après ce carton rouge annulé, t'as quand même l'impression, t'as une grosse odeur de corruption qui vient quand même planer sur le reste de la compétition.
Alors,
donc,
ça, c'est déjà arrivé.
Moi, j'espère que ça va pas se faire.
Les Argentins sont champions du monde en 78. Voilà, on peut se poser la question comment ils ont fait.
Quand l'équipe de rugby d'Afrique du Sud gagne.
L'équipe de rugby d'Afrique du Sud.
En Afrique du Sud, devant Mandela.
Le sport aujourd'hui, c'est de la géopolitique. Hein. Et tu peux t'interroger sur qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais du coup, voir continuer les Américains dans leur parcours, parce que là.
Mais là, on parle de Trump.
Peut-être demain, ils seront en quart. Tu dis jusqu'où ça peut aller cette histoire-là et tu peux te poser des questions.
Mais tu as Trump qui a parlé, tu as Rubio aussi qui s'est exprimé en disant que les Américains se sont fait entuber, que c'était pas normal et qu'il fallait réfléchir. Monsieur Maître Consigny, Charles Consigny.
Je vous avoue n'avoir pas suivi ce dossier comme le lait sur le feu. Néanmoins, le président Trump étant un homme plein de sagesse, s'il a décidé de faire annuler ce carton rouge, c'est qu'il avait ses raisons. Et je vous demande de vous y conformer. Pas au nom de quoi nous ticurions une décision Trump. Vous dire, je ne suis pas au courant de cette Coupe du Monde. Elle se déroule aux États-Unis, par exemple, je ne sais pas.
Que fait-on pendant cette Coupe du Monde? Que se passe-t-il? À quoi joue-t-on pendant cette Coupe du Monde? Quel est le sport?
De toute façon, les Américains ne gagnent jamais la Coupe du Monde de foot.
Ils font tout pour, tu vois, on n'a pas
d'inquiétude à avoir.
Mais c'est
les Bleus qui vont la gagner.
Non, mais il y a un problème.
On m'a dit soit les Espagnols, soit les Français.
Non, mais Charles, il y a un problème. Alors, à la limite que Trump trouve ça injuste, mais on peut toujours trouver injuste un carton jaune, un carton rouge, un pénalty qui n'a pas été sifflé, ça fait partie du jeu. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'une instance comme la FIFA qui dégage, alors qui brasse énormément d'argent, hein, on parle de plusieurs milliards d'euros de bénéfices,
c'est un état
dans l'état, mais c'est un état faible, qui suffit d'un coup de fil pour que le président de la FIFA.
Ça, c'est parce que c'est dirigeant.
Trump et les États-Unis ne sont pas connus pour leur grand amour du football et leur connaissance des règles. Donc quand Trump dit je trouve ça injuste,
je crois que Donald Trump n'est pas connu d'une manière générale pour la connaissance des règles.
Des règles et de ce sport en particulier. Donc quand il dit je trouve ça injuste, il faudrait déjà savoir si il connaît ce qui est juste dans ce sport.
Les Américains peuvent gagner la coupe.
Trump ne rend pas service à son équipe.
Parce que
tout le monde sera pour la Belgique. Et que
le prochain arbitre, s'il est un peu intègre et qu'il n'a pas des consignes, il va les avoir l'œil.
Et puis surtout, les États-Unis, s'ils gagnent, forcément, ça sera toujours entaché de cette.
Où ont lieu les matchs?
Dans des stades.
Non, mais
alors, un stade, tu vois ce que c'est un stade?
Il y a trois pays qui organisent, les États-Unis.
Mais bientôt plus qu'un.
Les matchs sont essentiellement aux États-Unis. Il y a le Mexique et le Canada. Et par exemple, nous, l'équipe de France, on joue à l'Est, New York, Boston.
Et Trump, je ne sais pas où ça en est aussi.
Le dégageur, il n'est pas favorable.
C'est Trump qui voulait remettre. Tu sais, Trump voulait remettre lui-même le trophée de la Coupe du Monde au vainqueur de la Coupe du Monde.
Ce qui
n'est pas d'usage.
Je crois que c'est dans les tuyaux, ça.
Et ça aussi,
il remettra la Coupe à la France, peut-être.
Donc, je te rappelle que c'est lui qui a fait le tirage.
Oui, c'est vrai. C'est lui qui s'est vu décerner le prix de la paix par la Fédération internationale
Il a bien, compris qu'une Coupe du Monde, c'était un objet de communication.
Qu'est-ce qui différencie ces pratiques de Kim Jong-un? Bien sûr, on décerne le prix. Bientôt, on va le couronner empereur. Bientôt, il va demander à être couronné empereur et puis on va le couronner empereur. On va
le prix Nobel de la paix.
À un moment, faut arrêter, quoi.
C'est vrai que c'est
il a son arc
gros.
De son nouvel arc de triomphe.
C'est tellement gros.
C'est surtout la fédération qui devrait pas.
Non, mais c'est ça en fait.
C'est ça qui est curieux.
En fait, c'est même pas la fédération parce que la fédération internationale, elle a pu être forte des fois, mais c'est ses dirigeants du moment qui sont pas forts.
Elle n'a jamais été forte, la FIFA.
Elle
est forte, les faibles,
du coup, avec cette histoire d'annulation de carton rouge qui est vraiment exceptionnelle. D'ici la fin de la compétition, tout le monde va déposer un dossier. Si tu veux, nous, on peut le déposer, faire un appel.
Nous, on a trois cartons jaunes qui sont embêtants parce que s'ils en prennent un au match suivant, ils jouent pas la
demi-finale. Celui d'Olysée. Les instances françaises où effectivement, Macron doit dire et moi je veux qu'à ce qu'on lève les cartons jaunes injustes.
Surtout celui d'Olysée, il y a rien quoi.
Donc
il est injuste, c'est l'histoire du football, des pénalités.
Bon,
mais il faut l'accepter, ça fait partie des règles, voilà.
Non mais
il paraît que les Paraguayens ont été au-dessus.
On va dire que ça peut jouer en notre faveur
aussi,
parce que du coup s'ils maintiennent l'annulation du carton rouge, et ben à ce moment-là, peut-être qu'ils vont être très cléments sur nos cartons jaunes à nous. Pour masquer un peu la corruption.
C'est fait.
Ah ouais, tu crois pas.
D'une manière générale, il y a un problème avec l'arbitrage dans ce mondial.
Non, mais ça, c'est trop facile.
L'arbitre ouzbek.
Non, mais c'est trop facile.
Ouzbek,
tu l'as déjà pris le sifflet, prends le sifflet.
L'arbitre ouzbek, il faut qu'il change de métier, pardon.
Non, ce qui est invraisemblable, c'est que le match France-Paraguay, vu le nombre de fautes de part et d'autre, et puis d'abord de la part des Paraguayens qui cherchent à faire disjoncter les Français, c'est pas normal que toi t'en prennes 3 et eux 0.
C'est ce que je te dis.
Et puis il y a des actions où dans le quart de la VAR, on doit appeler l'arbitre pour lui dire là il y a rien ou là il y a quelque
chose. On va conclure avec Vincent. Vincent, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous en pensez de l'intervention de Trump, Vincent?
Ah, le problème, c'est que l'intervention de Trump, bon, en soi, tu peux le comprendre. Bon, bon, excuse-moi, on peut le comprendre sur le carton rouge, parce que bon, quand on voit en début de compétition, ce qui s'est passé avec Messi, qui fait une faute largement plus grave sur un Algérien, qui est même a posteriori, il n'est même pas sanctionné, alors que les règles de la FIFA ont déjà bien pu sanctionner des joueurs pour des fautes beaucoup moins graves que celle-là. Je peux comprendre que ben il y a des interventions et vous dites la Fédé française actuellement elle est en train de se poser la question sur les cartons jaunes de porter réclamation pour justement éviter contre le Maroc une suspension d'un joueur en demi-finale en cas de qualification. Donc l'intervention de Trump en soi, que ce soit le président qui intervienne, ah, ok bon c'est grotesque, mais que la sanction soit levée, il y a rien d'incohérent par rapport au début d'arbitrage, au début du mondial où l'arbitrage est carrément mauvais.
Ah oui, mais alors dans ce cas-là, on remet toutes les décisions arbitrales. Alors là, du coup, on passe tout le temps notre temps à dire qu'il faut respecter l'arbitre, même quand la décision paraît injuste. Là, on respecte plus rien.
Parce que bon, sur France Paraguay, je veux pas être méchant. Hein, j'ai eu l'impression de regarder plus un match de district qu'un match de Coupe du Monde.
Ah bon, parce que l'arbitrage, oui, l'arbitre était
positif. L'arbitre qui a laissé faire.
Non mais l'arbitre,
là, je suis désolé,
l'arbitre que les Parisiens fassent ce qu'ils ont fait, c'est pas grave. Non, c'est l'arbitre qui laisse faire.
L'arbitre est mauvais. Excuse-moi, tu disais, t'as pas pris le sifflet. On a le droit de dire quand un arbitre est mauvais qu'il est mauvais.
C'est pas ça.
Quand
c'est
un joueur de foot est mauvais.
À un moment donné,
c'est pour l'arbitre.
Vous avez à la face du monde tout ce que provoque l'égalitarisme. C'est qu'à un moment donné, quand tu prends des gens de tous les continents pour arbitrer la multitude de matchs qu'il y a, tout le monde n'est pas bon, mais il faut la parité dans les pays, les continents représentés, et à un moment donné, tu peux pas avoir que les meilleurs arbitres. Alors de plus en plus, avec le nombre de matchs qui diminue, on aura les meilleurs arbitres, mais je pense que ça nivelle par rapport à l'uniformité.
Si jamais,
Vincent, on va voir ce que décident aussi les instances françaises. Vincent, si elles déposent des recours contre les cartons jaunes, et en particulier celui de Michael Olise. Merci d'avoir été avec nous, Vincent. Bonne journée. Si vous voulez continuer d'écouter, de commenter le foot, il y a une radio qui le fait très bien. C'est RMC, c'est la radio officielle de la Coupe du Monde. À partir de 15h jusqu'à plus d'heures, vous retrouvez toute l'actualité, bien sûr, du football, de la Coupe du Monde et du Tour de France aussi. Allez, dans un instant, des aveux. Ceux de Cédric Jubilard, il a craqué visiblement Cédric Jubilard, ses conditions de détention, la stratégie aussi de son avocat. Cédric Jubilard avoue le meurtre de sa femme et on en parle ensemble au 32-16 avec vous bien sûr. Il est 9h20, vous êtes avec les Grandes Gueules sur RMC et RMC Story, Didier Giraud, Charles Consigny, Joël Dagosséry.
RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
Les GG, les Grandes Gueules, c'est avec vous en direct sur RMC et RMC Story. Vous venez prendre la parole au 32-16, bien sûr, pour discuter, pour débattre. Aujourd'hui, notre trio de GG, Joël Dagosséry, la coach de vie, Didier Giraud, l'agriculteur, et Charles Consigny, l'avocat. Le coup de théâtre judiciaire du jour, ce sont nos confrères du Midi Libre qui l'ont révélé. Ce sont les aveux de Cédric Jubilard, qui a reconnu avoir tué son épouse Delphine. C'était le mystère depuis la fin de l'année 2020. Incroyable. Alors que son procès en appel arrive, Cédric Jubilard s'est confié à ses avocats dans un courrier et il leur a dit « Oui, je reconnais avoir tué ma femme Delphine ».
C'est la fin du mystère. Jubilard a reconnu sa responsabilité dans la disparition de son épouse. C'était cette fameuse nuit du 15 au 16 décembre 2020 à leur domicile de Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Il a écrit à ses avocats et dans cette lettre, il explique effectivement qu'il y a eu une dispute entre les deux et que ce soir-là, il a tué Delphine. Alors, on ne sait pas précisément comment il l'a tué. On ne sait pas précisément où est le corps. Donc, ses avocats nous expliquent que c'est Jubilard s'exprimera, il va parler aux enquêteurs, il va dire précisément ce qui s'est passé. En tout cas, c'est la fin du mystère. Il avait changé d'avocat. Rappelons qu'il a été condamné à 30 ans de prison en première instance, qu'il avait fait appel. Le procès en appel devait se dérouler en septembre. Il avait changé d'avocat, il avait pris les Dubuisson père et fils. Et visiblement, ce nouvel avocat, Pierre Dubuisson, a réussi à le faire parler. Alors après, on nous présente un Cédric Jubilard qui depuis 5 ans à l'isolement en prison, qui n'est pas très très bien, il souffre de ses conditions de détention, il prend beaucoup de médicaments et peut-être qu'affaibli, il a voulu soulager sa conscience et désormais il voudrait une sépulture pour son épouse.
Qu'est-ce que vous en dites 32-16 pour en parler avec G. Bravo les avocats, Maître Consigny, Charles Consigny.
Parfois, il y a des affaires dans lesquelles il vaut mieux avouer le meurtre, le crime, quand les éléments sont trop accablants. En l'occurrence, de ce qu'on sait de ce procès, de cette affaire, il y avait quand même un certain nombre d'éléments à charge, en tout cas suffisamment pour qu'il soit condamné à 30 ans de prison en première instance, dans l'espoir aussi d'améliorer son sort en appel. C'est-à-dire, moi, je suis pas dans le secret de son esprit à ce monsieur, mais je pense que la cour d'assises c'est aussi un moment de vérité un peu. Il faut que les jurés ont une décision à prendre, une décision très lourde, puisque elles peuvent aussi bien envoyer quelqu'un en prison pendant plusieurs décennies que, au contraire, l'acquitter purement et simplement. Si il est coupable, évidemment, c'est une décision lourde aussi.
Mais le fait qu'il ait reconnu sa culpabilité...
Bah moi, je pense que ça change les choses.
Il a pris 30 ans en première instance, est-ce qu'il pourrait prendre un peu moins, parce que justement, vis-à-vis de ses enfants...
En tout cas, je pense que...
Il avoue enfin la vérité.
Si ses avocats ont fait ce choix, c'est qu'il n'était pas acquittable. Non. Et d'ailleurs, je me souviens, pour avoir suivi le procès en première instance... ses avocats se débattaient comme de juste pour essayer d'avoir son acquittement, mais je trouvais que ça sonnait faux. Et aux assises, il faut que ça sonne vrai. On peut pas dans des affaires avec des enjeux pareils avoir une partition qui sonne faux, ça marche pas. Donc je pense que, en tout cas, s'il doit nourrir le moindre espoir d'améliorer un tout petit peu son sort, c'est comme ça qu'il peut le faire. Et ensuite, c'est aussi, je pense, je sais pas,
l'améliorer ou l'améliorer ou l'aggraver, parce que pendant 6 ans, il s'est muré dans le silence.
Non, je pense. Voilà. Bah, quand on a pris 30 ans, sauf à prendre perpète.
Bon. Comment tu peux l'améliorer en appel derrière?
Je pense que c'est aussi, d'une certaine manière, non, même si je suis pas dans son esprit, c'est une marque aussi de respect pour les proches de
la
victime. C'est une manière
c'est ce qu'il
d'avouer.
Dit, je vais offrir une sépulture à la mère de mes enfants.
Ça peut être quand même
d'aller en pénitence.
Il a bon cœur finalement.
Non, mais c'est pas ce qui sera considéré.
Sans aller jusque là.
Mais voilà, moi je on sait pas pourquoi quelqu'un avoue. De la même manière,
sous la circonstance,
on a parfois des dossiers dans lesquels on comprend pas pourquoi quelqu'un nie. Jusqu'au l'évidence. Bout, quand vraiment l'évidence est là. Et parfois, c'est très difficile de défendre Joël. Quelqu'un contre l'évidence.
Joël Dagosséry.
Félicitations à son avocat ou ses avocats qui sont, à mon avis, des femmes psychologues, parce que j'imagine.
Parfois, on se bat pour que la.
J'imagine que il faut pas juste connaître le droit, il faut aussi pouvoir maîtriser la psychologie humaine et la psychologie de son client. Donc félicitations à eux. Ceci dit, voilà, enfin les arguments qu'il avance d'offrir une sépulture à son épouse et peut-être voilà calmer aussi l'esprit de ses enfants. Enfin, je veux dire, ça me le rend pas plus sympathique. Mm-hmm. Je veux dire, je le déteste tout autant. Désolée de dire ça, mais une femme qui a voulu juste se séparer, en fait, bah malheureusement, ça arrive dans les couples, ça arrive dans la vie de vouloir et qui ne le supporte pas au point de la tuer, d'enlever la vie à la mère de ses enfants. Enfin, je veux dire, mais qui pourrisse. Enfin, j'espère que effectivement, je comprends la démarche et la cour d'assises qui pourrait peut-être être plus clémente. Mais je l'espère. J'espère que non, parce qu'en fait, c'est quand même 6 ans de mensonges. D'autant plus pour un truc. Là, on nous dit que c'est un mystère qui est levé, mais je pense qu'il y a énormément de personnes dans la population qui se disaient déjà que c'était lui. Enfin, je veux dire, il y a pas cette femme n'a pas ni été tuée par son amant, n'a pas disparu
avec son enfant. Barbara tenait une thèse inverse.
Franchement,
c'est original.
Franchement, non. Donc voilà. Enfin, j'ai rien à dire d'autre. J'espère qu'il continuera, qu'il reprendra 30 ans malgré ses aveux.
Puis les enquêteurs, il faut saluer le travail des enquêteurs qui, depuis le début, avaient quand même... ils avaient vu juste, ils avaient tracé le parcours, montré les heures, les incohérences.
Ils avaient dit que la voiture avait été utilisée pour transporter son corps. Donc lui, il dit, dans la lettre, il dit qu'il a bien utilisé cette fameuse Peugeot pour déplacer le corps de sa femme.
Monsieur Didier Giraud.
C'est pas où encore.
Ôte-moi d'un doute, Charles, en appel, il y a aussi des jurés populaires.
Oui, bien sûr. Ouais, il y en a même un peu plus.
Moi, tu vois, pour moi, ça change rien. Ça change rien. Moi, j'ai été juré populaire et en assise. Et je peux te dire qu'à un moment donné, ce qui guide les gens pour la peine, c'est protéger la société, en fait. c'est le risque de récidive, protéger la société. Et là, les jurés en première instance, ils lui avaient mis 30 ans. Donc à un moment donné, pour eux, il n'y avait aucun doute. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute sur sa culpabilité. Et pour moi, les aveux ne changent rien. Ne change rien dans le fait d'adoucir une peine. Quand t'es tout seul dans la petite salle à côté, puis que tu dois écrire un nombre d'années sur ton papier, t'as dans la tête à un moment donné de te dire, c'est la question qu'on te pose, as-tu l'intime conviction de sa culpabilité? Et si oui, t'es motivé par le fait de vouloir protéger la société de ce mec-là. Donc tu lui mets tout ce que tu peux lui mettre. Et je pense que les aveux, pour moi, ça n'adoucira pas la peine, voire même ça peut renforcer un peu un sentiment d'injustice de la part des jurés, dans la mesure où il s'est arc-bouté à nier l'évidence, quoi.
Oui, mais ça peut soulager.
L'histoire de la sépulture, non.
Non, mais ça peut soulager en
c'est
ses
du pipeau, ça. C'est
ça
du pipeau.
Ça peut soulager ses profs.
Ça, je veux bien l'entendre. Je veux bien l'entendre que pour les parents de Delphine, ça doit changer les choses.
Ses enfants, de savoir
ça doit changer les choses.
Ça permet aussi d'enterrer,
pour le juré.
D'enterrer leur mère. Ça permet aussi de.
Mais non, mais ça je l'entends. Non, mais ça, j'entends que c'est un élément qui peut être essentiel dans la reconstruction des victimes, en fait.
La famille, c'est essentiel, quand même.
C'est la reconstruction des victimes, en fait.
C'est pas pour ça, à mon avis, que les enfants partent dans l'enfer, mais au moins.
Non, mais c'est pas ça, mais ceux qui tiennent le crayon en appel, c'est des jurés populaires qui sont des gens comme toi et moi. Et à un moment donné, eux.
Oui, mais les avocats,
eux, ça leur ces aveux, ça leur adoucit rien.
Les avocats, Charles, ils vont jouer là-dessus. Ils vont dire, voyez, il était enfermé dans un mensonge.
Oui, bien
sûr. Il a trompé tout le monde. Finalement, il s'est rendu à la raison. Il avoue parce qu'il veut que pour ses enfants, que les choses soient plus claires. Ça peut jouer quand même. On aura un regard.
Ça joue à combien d'années?
Que lui-même, c'est une manière de faire un pas vers la société.
Voilà.
Mais honnêtement, c'est pas non plus comme ça que on passe de 30 ans à 5 ans de prison. Hein. Il va, c'est une manière quand même de faire un pas vers les.
Est-ce qu'il a des conditions de détention moins strictes parce qu'il est à l'isolement?
Il est à l'isolement, il a la lumière allumée, je crois, quasiment tout le temps.
Je comprends pas pourquoi il est à l'isolement.
Bah, par ailleurs. Personnage médiatisé, qu'il avait parlé à son co-détenu.
Oui, mais la lumière allumée tout le temps, etc. Oui. Je ne sais pas.
Il est en manque de sommeil, il est sous médicaments, donc psychologiquement, il a craqué, Joël.
Mais il me semble qu'il avait parlé du meurtre de sa femme à une petite copine,
qu'il disait qu'il allait la tuer, de mémoire.
Oui. Ah oui, c'est ça, d'accord. Oui,
il menaçait.
Il disait au préalable qu'il allait la tuer. Ouais,
non, Hervé, bonjour.
Bonjour Olivier.
Bienvenue Hervé de Montreuil, bonjour, manager en restauration. Les aveux de Jubilard, on se dit enfin.
Oui, on va enfin connaître. Parce que tout se mettait contre lui au niveau de l'enquête et tout ça, mais pas de preuves, pas d'armes de crime. C'était assez compliqué à comprendre cette histoire. Maintenant, est-ce qu'on ne l'aurait pas mis un peu à l'isolement, compliqué les conditions de détention pour
le faire craquer,
le faire craquer, voilà. Et lui dire,
Et ça vous choque?
Ça vaut, ça va.
Du coup, ça a marché.
Et ça vous choque? C'est un prix 6 ans, remarquez, mais.
En
théorie,
en théorie, on n'a pas le droit de faire ça, je pense, mais c'est ce qui nous différencie un peu des États-Unis, où je pense que là-bas, pas d'armes du crime, pas de corps. Je suis pas sûr qu'il aurait été condamné à 30 ans de prison, même juste sur des preuves significatives. Mais c'est chacun sa justice.
Mais attendez, Hervé, je comprends pas. D'avoir mis à l'isolement dans des conditions rudes, vous, ça vous choque?
C'était pour faire craquer, oui. Maintenant, je pense que le juge avait ses raisons. À la prison, pareil, il devait avoir leurs raisons. Est-ce que c'est normal? J'en sais rien. Pour moi, il y avait tout qui le rendait coupable. Maintenant, pas d'arme du crime, pas de corps.
Donc ça veut dire que Hervé, vous ne croyez pas à sa culpabilité?
Jusqu'à ce qu'il avoue, vous ne croyez pas à sa culpabilité, quoi, en fait.
Jusqu'à avoir la preuve concrète ou ses aveux, j'ai donné une part de non culpabilité, oui.
Il y avait un mystère, de toute façon.
Voilà, c'est ça.
Mystère, oui, mais alors, c'est marrant parce que c'est intéressant le rôle de l'avocat, parce qu'on dit souvent que l'avocat, enfin, souvent les gens ne comprennent pas pourquoi l'avocat défend le criminel. Il dit c'est quand même, il défend quelque chose que tout le monde juge insupportable. Là, l'avocat non continue à défendre quand même son client, mais le fait avouer. C'est ça qui est intéressant.
Mais encore une fois, il y a beaucoup de dossiers dans lesquels la défense de quelqu'un passe parfois par ses aveux. Oui. Parce que c'est une manière de casser, si vous voulez, une espèce d'écran qui existe entre l'accusé et la justice, que ce soit les jurés, les juges, etc. Et a fortiori, avec des jurés populaires qui traitent pas ça comme un dossier. Alors, je dis pas que les juges traitent comme un dossier, mais les juges, ils font ça toute la journée. Ouais. Un jury populaire, il est vraiment en quête de vérité. Il a besoin d'avoir du vrai en face de lui. Donc moi
Parce qu'il a une affaire dans sa vie.
Je pense que c'est pas une mauvaise démarche, et encore une fois j'ai eu très souvent des cas où on se bat et on n'y arrive pas.
Enfin, 6 ans. Toujours. Le gars a tenu 6 ans. Il s'est muré.
Parfois, on
muré
explique dans le silence. Non, mais
il faudrait mieux avouer. Les gens ne veulent pas. On commence ce matin, mais moi, j'attends l'étape d'après, les gars. Hein.
C'est-à-dire le corps.
Non, c'est quand il va se rétracter.
Bah non.
Non.
Bah
non, on verra. Voilà, il a écrit une lettre.
Joël, merci Hervé d'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules.
Non, mais effectivement, il a subi des conditions de détention.
Même à Charles.
Il peut se rétracter.
Allez, on parie.
Il peut se rétracter. J'ai avoué sous la pression.
Si les avocats, quand ils reçoivent le dossier en l'état, donc lui, il niait le meurtre de sa femme, si les avocats se sentent incapables de défendre, enfin, vraiment, quand je dis incapables, dans le sens où ils regardent la thèse et les éléments, ils se disent, mais ça, c'est pas défendable. Et donc, est-ce que ça pousse les avocats à orienter, entre guillemets, les aveux ou pousser
Il y a peu de chances qu'ils soient relaxés en appel.
Parfois, si vous voulez, parfois, très souvent, on arrive sur une ligne de crête. Je me souviens, par exemple, cette ligne qui avait été assez bien tenue par ma consoeur Jacqueline Lafont en défense de Nicolas Zepeda. Vous vous souvenez, ce Chilien qui avait tué une jeune femme japonaise à Besançon. On n'avait jamais retrouvé le corps, mais vraiment tout accablait, y compris la vidéosurveillance. Bon. Mais lui ne voulait absolument pas reconnaître ce crime. Il était totalement muré, arc-bouté à ne pas reconnaître ce crime. Sa peine a été aggravée, je crois, en appel. Et Jacqueline Lafont, son avocate, avait tenu une espèce de ligne de crête où, sans avouer à la place de son client, elle avait essayé d'expliquer les ressorts psychologiques qui faisaient qu'il n'était pas en mesure d'avouer un truc pareil. Et résultat, il avait quand même pris 28 ans de prison, mais sans période de sûreté, ce qui veut dire qu'il était, entre guillemets, aménageable à la moitié de sa peine, etc. Et donc, c'était une ligne de crête que parfois l'avocat tient dans ce type de situations qui sont très compliquées.
Donc, ça veut dire qu'avec les aveux obtenus par son avocat va faire baisser sa peine, va essayer de faire baisser sa peine.
Merci d'avoir été avec nous. Maintenant, c'est la deuxième étape importante, c'est qu'ils disent où est le corps et que le corps soit retrouvé. Dans un instant, 10h-20, le 11 s'enfonce, on s'en fout pas, reste avec les grandes gueules, Joël Dagosséry, Didier Giraud et Charles Consigne.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Cette semaine, on vous offre des vacances bel en bras, des tout compris premium, les amis. Mer, montagne, campagne, vous choisissez où vous partez. C'est un séjour de 2000 euros. Bel en bras vous l'offre. Vous envoyez vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. Si vous n'avez pas pu partir pour des questions de budget, ce qu'on peut comprendre en ce moment, c'est là, c'est pour vous. Donc vous envoyez vacances par SMS au 732-16. Tirage au sort tout à l'heure à 11h20. Le gagnant, la famille gagnant, en direct dans les GG, dans les grandes gueules. 10h moins le quart, on accueille Anaïs Inès Saint.
RMC, les grandes gueules. On s'en fout. On s'en fout pas. Elle a mis le maillot de l'équipe de France.
Mais oui, elle est dans l'ambiance.
Elle est vert de gris.
Le maillot vert de gris.
C'est l'usure de la statue de la liberté.
C'est le deuxième maillot
vert de gris.
Qui avait fait un petit peu polémique. Bon, les GG. Que va bien pouvoir faire Emmanuel Macron après 2027? Eh bien, d'après cette indiscrétion du journal du dimanche, le chef de l'État pourrait rebondir chez Xavier Niel. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles ?
On ne s'en fout pas.
Didier ?
On s'en fout comme de l'eau 40 qui s'en aille. Barbara ?
Joël ? On s'en fout pas. Dans l'idée de garder la main en vue de 2032, Emmanuel Macron serait en train de chercher sa rampe de lancement, donc avec un poste taillé sur mesure, mais encore flou hein, dans ses contours, en lien avec le milliardaire Xavier Niel, donc selon les infos de l'hebdomadaire. Charles ?
Bah, d'abord, 2032, moi je n'y crois pas. Je ne crois pas au retour des hommes politiques. Je pense que une fois
c'est pas que ça, parce que François Hollande y croit lui.
Oui, ben je crois pas pour Hollande et j'y crois pas pour Emmanuel Macron. Je pense que une fois que les Français ont beaucoup vu quelqu'un et qu'ils l'ont essoré jusqu'à la corde, ils ont plus envie de le revoir. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire chez Niel? Je n'en sais rien. De toute façon, Niel a un appétit absolument incroyable. Il est propriétaire de la moitié des beaux immeubles de Paris. Il a des actions partout. Il rachète tous les restaurants. On peut pas faire un pas sans tomber sur Niel. Donc, je suis pas étonné qu'il récupère, y compris.
Bah, c'est la France qui réussit.
Le président sortant.
Il va racheter le président.
Il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un de très dynamique. Mais, il est dynamique, presque envahissant.
Oh. Joël.
Bah écoute, je comprends pas cette obsession de revenir au pouvoir alors qu'on l'a même pas encore quitté. C'est-à-dire qu'on on prépare son retour alors qu'on est encore là. Emmanuel Macron, lorsqu'on a voté pour lui, enfin dans son parcours, c'était quelqu'un qui venait du privé. Donc moi, naïvement, j'ai pensé que c'est quelqu'un qui peut se débrouiller avec ses 10 doigts.
Là, il va retourner dans le privé.
Oui, d'accord. Oui, mais il n'y a pas à se projeter sur 2037. Tu vois, la dernière 32. Fois, 2032, pardon.
Je pense aussi à 2037. Je
regardais la cérémonie d'Obama qui avait ouvert son centre présidentiel et j'ai vu arriver Merkel. Et je me suis dit, oh waouh, j'avais oublié Merkel. C'est-à-dire que dans tous les autres pays, ils disparaissent. Les John Major, les David Cameron.
Il est revenu.
Oui. Mais il n'est pas parti, voilà, c'est ça. Mais je veux dire, nous, ils s'accrochent comme s'ils n'avaient rien d'autre à foutre. Enfin, je veux dire, il peut servir le pays. Oui, mais il peut servir le pays autrement.
C'est une bonne idée si Xavier Niel lui trouve un job.
Oui, qu'il lui trouve un job, mais surtout, qu'il y reste, qu'il intègre la vie privée, qu'on ne le revoie plus, qu'il serve la France autrement, mais pas que ce soit une rampe de lancement. Enfin, c'est quoi la rampe de lancement?
Moi, je le voyais plus à l'échelon européen, à vrai dire.
Moi aussi, je pensais que ce serait plus.
Les GG. Dans le Nord, le port du casque devient obligatoire pour les utilisateurs de trottinettes électriques. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Didier ?
On s'y intéresse.
Oh non, bah tu vas pas t'y mettre aussi.
Tu vas pas t'affaire dans l'ombre, mais
j'essaie de comprendre.
On s'en fout pas. Charles, Joël, on s'en fout pas. Décision du préfet après un mort en trottinette à Lille, pardon. Cette semaine, dès le 1er septembre, les contrevenants s'exposeront donc à 35 euros d'amende. Didier ?
Eh ben moi je trouve que c'est une bonne décision parce que tu vois les trottinettes sur les trottoirs qui roulent au milieu des gens, ça roule pas très vite, ça des fois ça descend sur la voie de circulation. On commence à en voir sur les petites départementales en milieu rural, au milieu des camions là. Et je pense que un minimum de sécurité s'impose. Voilà.
Sur les départementales.
Ah ouais. Moi j'en c'est-à-dire vois là
entre les tracteurs et les camions.
En tracteur on peut pas les doubler.
En général, ces quantités, c'est un coup d'absinthe.
Non.
Tu vois des trottinettes partout.
Absinthe.
Avec des ailes.
Eh ben, écoute, ça m'arrive de boire. Alors, tu vois, ça m'arrive de boire une petite absinthe, mais ça n'a rien à voir avec ça.
Mais c'était interdit, ça.
Mais non, c'est
autorisé.
Mais je t'expliquerai, c'est un autre sujet. Mais je pense quand même que des trottinettes sur des voies de circulation avec des voitures, des gens qui n'ont pas d'airbag.
Bah oui, mais
pas d'airbag, mais les vélos, le casque est obligatoire, je suis désolé.
Je pense
par exemple que les gens pourraient s'équiper comme on a sur la moto taxi d'un petit gilet sans manche airbag. Tu vois, c'est dangereux. Hein.
Bah oui.
Les trottinettes qui roulent à 60 ou 70.
C'est dangereux, Didier, tu sais.
Olivier, tu veux témoigner?
Très bien. Olivier, elle ne veut plus de règles.
Déjà, je n'allais pas dans le Nord, je vais te dire. Ça, c'est encore une raison pour laquelle j'irai pas. J'irai encore moins.
Pourquoi?
Je suis désolée. C'est moi, j'aime faire de la trottinette. Notamment quand je vais dans le Sud, j'adore. J'aime bien la faire en mini-short, sans aucune protection.
Attends, Joël, tu prends les voies de. circulation, tu prends les voies.
Non, je vois les voies, je prends les voies de vélo, enfin les voies trottinette. Ça va avec mini short, ça va avec mini short, cheveux au vent, lunettes de soleil, liberté. Enfin, je veux dire, il y a pas à se casquer. Déjà, je déteste le casque. Je déteste les casques. Je suis désolée, je prends pas 3 heures devant dans ma salle de bain pour foutre un casque. Et autant j'avais pas les masques à cause de ça.
Je suis d'accord.
Non, mais alors, donc non, il faut arrêter.
Esthétique alors.
Oui, esthétique, de liberté, de voilà.
On sait que c'est ridicule, mais bon.
Charles.
Écoutez, sans surprise, moi je suis contre la persécution des mobilités. Je pense qu'on nous emmerde trop tout le temps dès qu'on fait 3 mètres autrement qu'à pied, et même à pied d'ailleurs. Et donc je suis pour le téléphone au volant, je suis contre les casques, je suis contre les gants qu'on oblige les motards à apporter, je suis contre l'immatriculation des véhicules.
Ah bon,
là, beaucoup de gens voudraient que les vélos, les trottinettes soient immatriculés. Je suis tout à fait opposé à ça. Voilà, je suis assez vieux, par exemple, pour avoir connu le scooter à Paris où on n'était pas obligé de mettre des gants. C'était quand même plus agréable en été. Donc voilà, je trouve qu'on nous emmerde pour rien et qu'il y a toujours des esprits chagrins pour venir emmerder leurs prochains.
Les GG, cette info RMC, les défaillances d'entreprises en hausse de 5% au premier semestre, elles atteignent un niveau record en France. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Joël ?
On s'en fout pas.
Didier ?
On s'en fout pas.
Charles ?
On ne s'en fout pas.
Chiffre exclusif du Conseil national des greffiers, et il y a eu donc depuis le début de l'année 34 322 faillites. Radiation d'entreprise, donc dissolution ou liquidation, augmente aussi de 17%. Ces deux indicateurs atteignent donc des niveaux historiques. Joël ?
Bah, c'est marrant parce qu'on nous annonce des Choose France, des Startup Nation, le pays est devenu le premier pays dans lequel on investit. Et à la fin, tu finis toujours avec des défaillances d'entreprise, des gels de recrutement.
Le mur de la réalité.
Il faut, voilà, je veux dire, ça va pas à un niveau communication. Moi, ce que ça me fait penser, c'est à la souffrance qui se cache derrière. Déjà, les emplois, bien sûr, qui vont être, des gens qui vont tomber au chômage. Mais la souffrance des patrons, parce que, effectivement, les patrons salauds, c'est pas ça. Parce qu'avant que l'entreprise elle aille en défaillance, j'imagine toute la dégringolade, c'est-à-dire le patron qui commence à ne plus se payer. Enfin, tu vois, en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Tu ne te payes plus, donc tu payes tes employés, tu t'essayes de survivre, tu rabotes dans les coûts, machin, etc.
Arrête d'investir.
Et voilà, et tu commences à toi-même à dégringoler économiquement dans ta vie de famille, etc. Enfin, je veux dire, c'est une lente mort qui est difficile à vivre. Donc, le gouvernement ferait mieux d'être un peu humble devant les annonces grandiloquentes. Et arrêter de nous mentir sur les chiffres et sur la santé économique du pays.
Je suis pas surpris. On peut pas avoir à cette antenne tous les matins des entrepreneurs qui nous disent j'arrive plus à payer partout et qu'il n'y ait pas de conséquences dans les chiffres. Et à un moment donné, je me dis quel est le politique qui va prendre le dossier à bras le corps et qui va alléger la fiscalité de ces entreprises. Quoi. C'est plus possible ça.
Non mais l'économie de notre pays est grippée pour une raison simple, c'est que nous avons trop de taxes et que nous ne travaillons pas
trop suffisamment. Trop de dépenses sociales.
Mais aussi que nous travaillons pas suffisamment. Regardez, moi j'essaye en ce moment pour mon nouveau journal Français Libre de trouver des techniciens pour enregistrer mes vidéos. Je le dis là, on est début juillet.
Tu lances
juillet,
un appel.
Toute la jeunesse est en vacances. Ah. Voilà, ils sont tous en vacances, donc après
Charles
pour pas
recrute.
Chouiner. Qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat, il n'y a pas d'argent, etc.
Allez,
quand
dans un instant.
Quand on commence ses vacances le 2 juillet, forcément, ça ne va pas bien.
Avec les GG, avec les grandes gueules, l'élection présidentielle, est-ce qu'elle se joue demain, puisque ce sera le jugement du procès en appel de Marine Le Pen ? Est-ce que la présidentielle est suspendue à ce jugement ? 32-16 pour venir en discuter avec les GG en direct sur RMC et RMC Story.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.